On s'intéressera alors à un sujet énorme. Et non seulement il y a de très nombreux sculpteurs et sculptrices en France au XIXe siècle, mais en plus la production est énorme, considérable, et en plus de qualité. C'est-à-dire, c'est pas des sculpteurs qui répètent tous un peu la même chose et qui... On a au contraire des talents très nombreux, très originaux, très singuliers, des avancées artistiques majeures. Bref, voilà un thème énorme, considérable, fondamental, et qui n'est pas regardé, qui n'est pas reconnu, je dirais, comme tel. D'ailleurs, des expositions sur la sculpture en France au XIXe siècle, il y en a très peu. Hein. La dernière remonte à une quarantaine d'années, au Grand Palais. Depuis, rien. Alors, de temps en temps, il y a des expositions sur tel ou tel sculpteur, ok. Hein. Mais des expositions un peu synthétiques là-dessus, très très peu. Donc c'est un sujet énorme, considérable, très important, et un sujet qui est très méconnu, qui n'est pas tellement regardé, pas tellement considéré. J'ai trouvé que c'était important de le regarder d'un petit peu plus près. J'avais envie de commencer, ça nous est déjà arrivé dans ces ateliers, par un petit sondage. Et je voulais vous demander, et je vais faire un petit tour de table, si dans votre esprit, quand on dit sculpture en France au XIXe siècle, il y a un nom qui vous vient à l'esprit. Quel est, quand on dit sculpture en France au XIXe siècle, le nom d'un artiste ou d'une artiste hein, qui vous vient à l'esprit? Il n'y en a peut-être pas d'ailleurs. Hein, ça, on est à l'université, on a le droit d'avoir des idées ou pas d'idées, c'est pas le problème. Hein. Pardon. Alors, on va faire déjà un petit tour de table. Hein, et donc, ce que je demande à chacune et à chacun, c'est de me dire un nom d'un sculpteur ou d'une sculptrice en France au XIXe siècle. Ça nous permettra déjà de faire un espèce de petit bilan, de voir ce que l'on sait. Alors, vous en connaissez peut-être plus qu'un ou que deux, hein, mais je vous demande en tout cas d'en citer un ou une pour que, déjà, on puisse avoir une sorte de silhouettage. Hein. Madame, qu'est-ce que vous auriez à dire ou à ne pas dire hein, si vous n'avez pas d'idée, vous dites, ben non, je vois pas, il n'y a pas de honte à ça, on est entre nous, de toute façon, ce n'est pas le problème.
Oui, je passe mon tour. Moi.
Vous passez votre tour, vous avez le droit.
Bourdelle.
D'accord. Ok, très bien. Chantal.
Camille Claudel.
Ok. Très bien. Alors, on a le droit, oui, je tiens à dire qu'on a le droit de dire deux fois le même nom. Hein. Si d'autres veulent dire un nom qui a déjà été dit, c'est possible, hein, il n'y a pas de problème. Hein.
Aucune idée.
Vous passez votre tour, mais c'est très bien, ça met de l'eau à mon moulin, donc c'est très très bien. C'est pas pour ça que vous êtes obligé de passer votre tour, hein, mais c'est pas un problème. À vous.
Camille Claudel.
Claudel aussi.
Il y en a un dont je ne retrouve plus le nom, c'est le sculpteur animalier, je ne sais plus comment il s'appelle.
Ah, eh ben on verra. On verra. On en parlera. Oui. On en parlera sans doute. À vous.
Eh bien, moi, je vais faire original. Rodin.
Rodin. Voilà. Vous écrivez ça comment? R-H-A-U-D-A-I-L. C'est ça. Oui, j'avais peur de faire une faute d'autographe.
C'est pas les mêmes.
À vous.
Carpeau.
Ok, parfait, merci.
Bartholdi.
Parfait, très bien.
Rude.
Alors, lequel vous choisissez?
Degas.
Très bien, merci.
Guillaume Eugène.
Eugène Guillaume,
pardon.
Oui, c'est ces gens qui ont un nom qui est aussi un prénom, alors, fils de ça, alors lequel va avant, hein, Eugène Guillaume, absolument. Qui est un bourguignon en plus, hein. Oui. À vous.
Camille Claudel.
Claudel, très bien, merci. Madame Blou, je crois. Oui.
Je
ne
suis pas certaine qu'il soit du 19e, Pigalle.
Il est 18e plutôt. 18e. Enfin, il est même 18e, oui. 19e, vous auriez quelqu'un?
Canevin.
Alors, oui, mais il est plutôt italien. Enfin, il est même
oui,
tout à fait italien.
Par contre, donc, autrement, Camille Claudel.
Oui, bon, on va en rajouter. On va en rajouter une petite barre. Voilà. À vous.
Alors, Camille Claudel. Et puis, une sculptrice, mais dont j'ai oublié le nom et j'en ai très honte.
Je pense que
c'est la sculptrice qui était sous Napoléon III et j'ai oublié son nom.
Marcello, peut-être?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Voilà,
j'ai oublié
son nom.
D'accord. Ok, oui, oui. Absolument. Ouais. Ok. Très bien. À vous.
Ben, moi, j'avais en tête le couple Rodin-Claudel. Bon, classique.
Ok.
Bonjour, j'en
viens. Martin, à toi aussi. Ok. Parfait. Bien. Ben, vous voyez, je crois que je ne me trompais pas trop. Hein. C'est-à-dire que quand je regarde la petite liste que j'ai réalisée, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on n'arrive même pas à 10 artistes. Je ne dis pas ça pour dire « Oh là là, ils sont nuls, hein, attention, moi. » Je n'ai pas là pour ça. Hein. Mais c'est simplement pour montrer que, tout simplement, c'est un sujet dont on ne parle pas. À vrai dire, c'est normal de citer si peu d'artistes, on n'en parle jamais. Alors, je ne vois pas comment on pourrait les connaître. On n'en parle pas. Hein. Or, il y a vraiment, on va le voir, hein, des artistes importants, nombreux, des œuvres de grande qualité. Heureusement, l'université pour tous est là. Hein, et donc, elle est là. On est à la fac, on est à l'université. On est là, justement, pour défricher des choses dont on ne parle jamais. Hein. C'est ça, l'université. Hein. C'est bien utile. Et donc, le but, ça va être d'essayer, dans 5 séances, que vous partiez avec, non pas 10 noms en tête, mais une cinquantaine, parce que ce sera un petit catalogue hein, de sculpteurs bien plus nombreux. Et vous allez voir, il y en a. C'est-à-dire qu'on va parler du 19e siècle d'une manière un peu large. Hein. Vous savez que le 19e siècle, en matière de beaux-arts, il n'a pas forcément les dates, je dirais, d'un chronographe. Hein. Le 19e siècle, il se termine en gros à la guerre de 14. Hein. Voilà. Et on pourra gratter peut-être un peu quelques années de la fin du 18e, mais si on n'ira quand même pas trop loin. Hein. Voilà. Mais le 19e siècle, ce n'est pas 1800-1900. Hein. Ça peut gratter un peu sur le 20e siècle, sur le début du 20e siècle, par exemple. Bien. Alors aujourd'hui, puisque c'est la séance de mise en forme, hein, on va se dégourdir un peu les jambes. Ce que je vous ai préparé, c'est une série d'une 25aine de diapositives avec des œuvres qui toutes sont de sculpteurs différents. Ces œuvres, on va essayer de les regarder, d'en parler, de voir si on en connaît les auteurs. Qui sait, de voir quels sont les sujets, quelles sont les matières, et puis de voir également dans quelle période de l'histoire de l'art du 19e siècle on peut les placer. Si j'avais à vous, de manière un peu symbolique, hein, si j'avais à vous demander, d'ailleurs, non pas je ne vais pas avoir à vous demander, je vous demande, comment est-ce que vous organiseriez le 19e siècle à travers des grandes périodes artistiques, qu'est-ce que vous me diriez? Si vous aviez, de manière très schématique, hein, dire voilà, le 19e siècle, il y a tel courant, qu'est-ce que vous diriez? Sachant que les courants artistiques dans le domaine de la sculpture sont assez équivalents à ceux de la peinture. Hein. C'est-à-dire que les grandes périodes picturales de l'art en Europe et en France en particulier au XIXe siècle se retrouvent aussi bien dans la peinture que dans les sculptures. Il y a peut-être un courant par contre qu'on ne trouve pas vraiment, pas du tout. C'est l'impressionnisme dont on a pu parler. On ne peut pas dire qu'il y a deux sculptures impressionnistes. Vous vous rappelez, hein, quand on a travaillé, c'est bien avec vous qu'on a travaillé sur l'impression Soleil Levant, hein, j'arrive pas. Hein. On a vu qu'à l'exposition d'impressionnisme, il n'y avait quasiment pas de sculpteurs. Il y en avait un. Hein, et encore, qui n'était pas trop impressionniste, vous vous rappelez. Hein. Donc, voilà, on ne peut pas dire qu'il y a deux sculptures impressionnistes. Par contre, les autres courants artistiques que l'on trouve au XIXe siècle, dans le domaine de la peinture, on trouve l'équivalent dans le domaine des sculptures. Qu'est-ce que vous auriez à dire? Comment est-ce que vous séquenceriez le 19e siècle dans le domaine artistique en France? En France et en Europe, encore une fois.
Le symbolisme.
Symbolisme, vous le mettriez à quel moment? Au début, au milieu, à la fin?
Plutôt au milieu, fin.
Mais... Plutôt au milieu, fin.
C'est sans garantie du gouvernement.
Oui, ok. Donc, le symbolisme, milieu ou fin, ok.
Le romantisme.
Le romantisme, que vous mettriez...
De la première moitié.
Première moitié. Première moitié du 19e, ok. Ouais.
Le fauvisme.
Le fauvisme. Ok. En sculpture, c'est vrai que le fauvisme, c'est un peu compliqué, parce que le fauvisme, c'est un courant qui travaille beaucoup la question de la couleur. Hein, et la couleur par aplat. Donc, un peu comme les impressionnistes n'existent pas vraiment en sculpture, on ne peut pas dire que le fauvisme existe en sculpture, mais il y a des choses un peu équivalentes. Quand j'ai noté quand même, on verra que quelque chose qui peut un peu correspondre au fauvisme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
L'expressionnisme.
L'expressionnisme. Oui. néoclassicisme. Ah, le néoclassicisme, au capital,
début,
hein.
Au tout début du
19e. Ok. Je résume, hein. Vous avez évoqué le néoclassicisme au tout début du siècle. Vous pouvez me citer un peintre néoclassique ? Le peintre néoclassique du début 19e, en France ?
David.
Hein, le Sacre de Napoléon. Oui. C'est quelque chose, ça. Le Serment des Horaces. C'est quelque chose. David, c'est le peintre néoclassique du début 19e. Donc, néoclassicisme, c'est le début du 19e siècle. La deuxième période, c'est effectivement le romantisme. Est-ce que vous pouvez me citer un peintre romantique important ?
Courbet.
Romantique ? Un peintre, tous les jours quand vous mettez un timbre sur vos enveloppes, c'est lui. Non. Delacroix. La liberté dit dans le peuple. Hein, tous les jours, quand vous mettez un timbre, si c'est des timbres qui ne sont pas des timbres de collection, vous dites, hein, vous avez un personnage qui dit la liberté qui dans le peuple de Delacroix. Hein, Delacroix, c'est le peintre romantique par excellence. Hein. Donc, le néoclassicisme, exemple David en peinture, le romantisme, exemple Delacroix. Donc ça, c'est pour la première moitié du siècle. D'abord le néoclassicisme, ensuite le romantisme. À la fin du siècle, il y a effectivement ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le symbolisme. Hein. Ça, c'est effectivement un courant. Est-ce que vous pourriez me citer un peintre symboliste ? Gustave Moreau, par exemple. Absolument. Gustave Moreau, c'est un peintre
symboliste.
Odilon Redon. Voilà deux exemples, effectivement, d'artistes symbolistes. Hein. Alors, on le disait tout à l'heure, le fauvisme, tout comme l'impressionnisme, n'existe pas vraiment en sculpture, alors qu'ils existent en peinture. Il y a peut-être un autre courant, alors qui va être plus compliqué à trouver, mais on va peut-être le trouver en regardant des photos tout à l'heure, hein, qui, à la fin du 19e siècle, serait peut-être un peu l'équivalent du fauvisme. C'est-à-dire un courant qui s'intéresse... Le fauvisme s'intéresse à quoi ? S'intéresse... Est-ce que d'abord, vous pouvez citer un grand artiste, enfin, un artiste fauviste en peinture ?
De Rhin.
Or, justement, De Rhin, c'est quelqu'un qui s'intéresse à mettre des grands aplats de couleurs sur ses peintures. Bon. Quel est un des éléments qui va fasciner les fauves ? Les fauves, quel est peut-être un des éléments qui est à la source de ce travail ? Le travail des fauves, ce n'est pas donc de chiader des peintures avec des ombres, etc. C'est faire de grands aplats de couleurs. Hein. Ça va donner le cubisme, après le fauvisme. Hein. Bon. Et qu'est-ce qui a été à la base du fauvisme ? Par exemple, quelqu'un comme Gauguin est un artiste qui est à la base du fauvisme. Hein. Qu'est-ce qui va fasciner les artistes comme ça ?
La lumière,
la couleur, et quoi encore ? Ils vont la trouver là, en Bourgogne, l'hiver, la couleur ?
Ailleurs.
Ailleurs, c'est-à-dire ?
Au soleil, c'est-à-dire ?
En
Sud, en Provence.
Oui, mais encore.
Dans les îles.
C'est-à-dire que ce qui intéresse ces artistes-là, les fauves en particulier, c'est d'aller trouver un ailleurs. Cette question de la couleur, de la lumière, qu'ils ne trouvent pas forcément sous leurs yeux en France, hein, ils vont la chercher ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser, en effet, aux îles, à des contrées qui, jusque-là, étaient un peu laissées de côté par les Occidentaux, et qui considéraient que les productions artistiques qu'il y avait n'étaient pas très académiques. Or, ils vont s'intéresser à ça. Hein. Ce qui fait que, puisqu'ils s'intéressent à ces cultures qui se développent dans des lieux éloignés, là où il y a du soleil, de la lumière, comment est-ce qu'on peut les appeler comment est-ce qu'on pourrait appeler ce courant-là ?
Orientalisme,
oui, mais l'orientalisme, c'est un courant que l'on va trouver plutôt, si j'ose dire. Hein. Par exemple, et c'est plutôt un courant, j'allais dire, transversal. Par exemple, il y a des romantismes orientalistes. Hein. D'ailleurs, quelque part, Delacroix l'a été. Hein, il a été en Algérie, etc. Hein, voilà. Donc l'orientalisme, c'est plutôt une espèce de fil rouge que l'on voit s'inscrire à travers tout le 19e siècle. Mais à la fin du 19e, il y a un certain nombre de gens qui s'intéressent à ces cultures, quelquefois très anciennes, pas très connues, ces cultures lointaines, ces cultures un peu, qui ont, j'allais dire, ce qu'on pourrait appeler une sorte de rudesse. D'ailleurs, vous savez qu'elles vont les appeler les arts premiers.
Hein,
Pardon ?
Primitif.
Eh ben voilà. Hein, le primitivisme. Le primitivisme, c'est vraiment un courant qui s'est développé en sculpture au XIXe siècle, qui est un peu une sorte d'équivalent de ce qu'on trouvera en peinture à travers des courants comme le fauvisme. Donc le primitivisme, c'est vraiment un courant important de la sculpture en France à cette époque. Ce qui fait que vous m'avez cité le néoclassicisme et le romantisme pour le début du XIXe. On a parlé pour la fin du XIXe siècle à la fois du symbolisme et du primitivisme. Par contre, il me manque le milieu. Un milieu vide.
C'est les écrivains réalistes. Est-ce qu'il y a l'équivalent en sculpture ?
Le réalisme, c'est capital. Quel est le peintre réaliste en France au XIXe siècle ? Vous y étiez tout à l'heure.
Courbet.
Courbet, c'est le peintre. En plus, c'est simple. Courbet, vous connaissez Un enterrement hors norme. Immense tableau qu'on ne peut pas ne pas connaître. Un enterrement hors norme, c'est 1850. On ne fait pas mieux au milieu du 19e. 1850, Un enterrement hors norme. Le chef-d'œuvre du réalisme. Le réalisme existe en peinture, il existe en sculpture. Donc, le réalisme, entre d'un côté le néoclassicisme et le romantisme, et de l'autre le symbolisme et le primitivisme, vous avez le réalisme. Et puis, il y a également, en France, à partir du milieu, mais également dans toute une partie de la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est ce qui correspond au siècle de Napoléon III, une période qui est un peu une période fourre-tout, où on s'intéresse à l'orientalisme, où on pousse à bout ce qu'on avait déjà exploré, le romantisme. Bref, une espèce de période échevelée. Une sculptrice comme Marcello, dont vous parliez tout à l'heure, en est un bel exemple. Comment est-ce qu'on appelle cet art, qui est un art qui va dans tous les sens, un art qui se permet tout, un art qui explore toutes les directions, on appelle comment ça ?
L'éclectisme.
Voilà, c'est l'éclectisme. L'éclectisme, c'est finalement le dernier courant que je voulais évoquer avec vous, et qui se situe, on va dire, entre les deux extrêmes que vous avez d'abord identifiés. Ça nous donnerait, si vous voulez, dans une frise chronologique un peu rigide, ça nous donnerait, un, néoclassicisme, exemple de David en peinture, deux, le romantisme, exemple de Lacroix, trois, le réalisme, en peinture, Courbet, quatre, ce dont je vous parlais il y a un instant, c'est-à-dire l'éclectisme, avec des artistes, alors en peinture, il y en aurait toute une série. Je pense par exemple à quelqu'un comme Henri Léopold Lévy, enfin il y en a vraiment toute une quantité. Ensuite, il y a le symbolisme, dont on a parlé tout à l'heure. En peinture, ce serait effectivement Gustave Moreau. Et puis ensuite, ce primitivisme qu'on pourrait voir comme une sorte d'équivalent du fauvisme, dont Gauguin, par exemple, serait la tête de pont. Est-ce que ce schéma vous semble clair ?
Yes.
Il est très important, parce que les schémas, vous savez, c'est schématique, comme certains auraient dit. Je pense que la palisse aurait dit quelque chose dans ce goût-là. Donc, c'est, comme tous les schémas, c'est assez faux, si vous voulez. Mais en même temps, c'est très utile d'avoir des schémas en tête, parce que, mine de rien, ça permet de construire une espèce de grille dans laquelle, après, on met des choses. Et puis après, les cases, on peut un peu les modeler de manière un peu plus souple. Vous voyez ce que je veux dire ? Avoir ce schéma-là est vraiment capital. Et je crois que pour un sujet aussi peu connu que la sculpture en France au XIXe siècle, cette grille, elle va nous être utile. OK ? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est bien joli de rigoler, mais maintenant, on bosse. Voilà. Alors, je sais pas ce que c'est que ce truc, j'espère que ça va pas nous embêter.
Non, vous inquiétez pas, vous avez dû toucher le fil.
Ah, c'est ça. Alors, vous connaissez nos petites règles, Je vous l'ai dit toujours à la première séance, Vous savez, moi, je suis un vieillard et quelquefois, je radote un peu, Donc, nous n'hésiterons pas à prendre la parole sans la monopoliser. Nous allons suivre une certaine méthodologie. Nous limiterons les commentaires subjectifs, puisque nous sommes là dans une université. On ne fait pas du blabla qui se regarde le nombril, on travaille scientifiquement. Nous n'utiliserons pas Internet, donc pendant une heure et demie, vous allez vous passer de vos tablettes. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Et si vous êtes des parfaits connaisseurs de la sculpture en France au 19e ou de certains éléments qu'on va voir, il est bon de ne pas tout de suite tout dire pour que le reste d'assistance puisse à son tour œuvrer. Voilà en gros quelles sont les règles que vous connaissez déjà pour la plupart. Alors je vous propose qu'on commence notre petit diaporama avec donc environ 25 œuvres que nous allons regarder les unes après les autres pour essayer de voir ce qu'il en est. Alors voilà déjà une première œuvre que je vous montre. Ce que je vous propose, je suis désolé, j'ai l'impression que les couleurs ne sont pas excellentes. Bon, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, ce ne sera pas formidable. Bref. Donc vous avez ici une sculpture. D'abord, est-ce que vous pouvez me dire, parce que j'aimerais vous dire un petit peu quelle est a priori sa matière. On y voit très, très, on voit très mal hein, par rapport à ce que je vois à l'écran. C'est vraiment très mauvais, hein, comme ça. Est-ce que vous pouvez me dire la matière ?
Marbre.
Marbre. C'est effectivement une sculpture en marbre. Hein. Est-ce que vous pouvez également me dire ce que vous voyez ? Quel est le sujet de la sculpture en question ?
C'est un nu.
Oui, un nu. Nu, ça ne dit pas tout. Hein.
C'est
une jeune fille allongée.
Non, un garçon.
Je pense que c'est un garçon. Bon. Est-ce qu'il y a des cours d'anatomie à l'UTB ?
Je crois qu'il va falloir comprendre.
Voilà, on va.
J'avais un masque aussi sur les yeux.
Oui. Oui, non, puis honnêtement, la projection est détestable. Hein. Vraiment, j'espère que ça ne va pas être tout comme ça. Une fois avec l'Égypte, on avait le même problème l'année dernière. Hein.
Oui, c'est vrai.
Parce que l'avance est très mauvaise. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est très mauvais. Bien. Donc, voilà. Un jeune homme allongé. OK. Vous auriez autre chose à dire par rapport à ça ? Par rapport au sujet ? Non ? Un jeune homme nu allongé. Point.
Oui. Très jeune quand même.
Très jeune. Un très jeune homme nu allongé.
Il est un peu androgyne.
Un peu androgyne, un peu ado. Ok. Mais rien d'autre.
Des bouclettes.
Des bouclettes.
Il a
une main fermée.
Une main fermée.
L'autre. Oui, on dirait qu'il tient un caillou.
Il tient un caillou. Dans quelle main ?
Gauche.
Il tient un caillou dans sa main gauche, la main fermée. Ok ?
Non.
Alors, ce jeune adolescent androgyne nu et couché, qui tient peut-être quelque chose dans une main, cette sculpture, vous la mettriez à quel moment des trois courants qu'on a essayé d'identifier tout à l'heure ? Néoclassicisme, romantisme, éclectisme, réalisme, symbolisme ou primitivisme ?
Non, pas primitivisme.
En gros, vous mettez ça plutôt vers le début, le milieu, la fin.
Début.
C'est-à-dire qu'on est plutôt dans du néoclassique. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est plutôt néoclassique qu'autre chose ? Le néoclassicisme, ça veut dire quoi ?
Ça reprend un petit peu la statue antique.
Ça reprend la statue antique, absolument. D'ailleurs, le mot néoclassique vient se lire, hein. Néo, ça veut dire nouveau. Hein. Classique, nouveau, classicisme. Le classicisme, c'est quoi ? Ben, c'est la Grèce. Hein. C'est le Parthénon. Voilà. Le Parthénon, c'est le chef-d'œuvre du classicisme grec. Voilà. Hein. Donc on a là, effectivement, une œuvre néoclassique, c'est-à-dire qui se réfère à la sculpture antique. On trouverait dans la sculpture grecque, notamment à l'époque hellénistique, des œuvres un peu équivalentes. On voit bien que ce sculpteur du 19e reprend ces schémas-là. C'est un sculpteur néoclassique.
Pour moi, il ressemblait aussi un peu au David. Hein,
oui, tout à fait. Au David de Michel-Ange, vous voulez dire ?
Oui.
Ah, qu'est-ce qui vous fait penser à ça ?
Je ne sais pas, le visage.
Ah, le visage, oui.
Voilà.
Le reste, vous trouvez ?
Non, parce que...
Ouais. Parce que je pense que au niveau du David de Michel-Ange, on a quand même une...
La musculature.
Voilà, c'est ça, hein, une musculature. Vous voyez, d'abord, il est debout, il a touché. Et puis, vous voyez, une dimension corporelle, effectivement. Le David de Michel-Ange est très musculeux, etc. Vous savez, c'est tout le travail de Michel-Ange autour de la corporalité, hein, autour de la... mais effectivement, au niveau du visage, on pourrait dire qu'on a... Hein. En tout cas, Valérie, est-ce que, par hasard, quelqu'un connaîtrait l'auteur de cette sculpture ?
Il me semble avoir vu.
Mais... Ouais. Pas le plus connu de ceux qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on passe, on regarde une sculpture suivante. Alors, matière. Je ne vous demande pas à chaque fois les dimensions, parce que c'est quand même compliqué sur une diapositive d'imaginer ces grands petits. Là, je vais vous le dire à chaque fois. Hein, ce n'est pas une sculpture très grande. Hein, c'est une sculpture qui est à peu près... Voilà. Pardon ? Bronze ? Tout le monde est OK avec ça ?
Non, j'aurais dit plutôt une terre cuite patinée.
Une terre cuite patinée ?
Ou une pierre.
Ou une pierre.
Une pierre.
Donc, bronze, terre cuite patinée ou pierre ? Il y a...
Pierre.
Ouais, pierre. Donc, bronze ou pierre ? Ouais. Bon. Alors, on a donc une sculpture en bronze, en pierre, en terre cuite, patinée, qui représente quoi ?
Un gnome.
Avec un gros crabe. Bien. Alors, cette sculpture, c'est quoi ? Ça se réfère à quoi ? Ça évoque quoi ? Ça représente quoi ? Ça veut dire quoi ?
Alors, c'est une bonne question.
Le visage fait penser à une gargouille.
Oui, tout à fait. On a là quelque chose qui fait beaucoup penser aux gargouilles des cathédrales médiévales. Hein. Donc il y a tout à fait cette référence-là à l'art médiéval et à ces figures fantastiques qui sont tellement présentes dans l'art médiéval, en France par exemple, au Moyen-Âge. Tout à fait. Est-ce que vous trouveriez d'autres sources d'inspiration pour une sculpture comme celle-là ?
La grenouille, elle peut symboliser, je ne sais pas, diverses choses, l'eau, c'est plutôt métaphore, je ne sais pas.
Donc, quelque chose qui évoquerait l'idée de l'eau, une chose un peu marécageuse peut-être ? Oui, vous disiez ?
Tout ce qui est mal, qui est mauvais.
Tout ce qui est ?
Tout ce qui est mal, qui est mauvais.
Ah, tout ce qui est mauvais. Donc, on aurait là une sculpture qui évoque le mal. Un personnage mauvais, hein. c'est ça. Hein.
Oui, puis il n'a pas des mains, il a des pattes.
Oui, il a pas de mains.
Ouais. Oui, il a des espèces de pattes. Vous voyez comment sa main droite se termine. Hein. Oui, c'est pas vraiment par une main, mais il y a une sorte de patte palmée, qui d'ailleurs ressemble sans doute à la patte palmée de la grenouille que l'on voit en partie sous la. Donc c'est une sorte d'homme grenouille, hein, au sens, j'allais dire, premier du terme.
Oui.
Hein. Hein, donc c'est effectivement, tout ça évoque le côté aquatique, on est dans l'eau, dans le marais, dans le cas fantastique. Hein. Décidément, c'est bien ce travail, cette idée de ce bestiaire fantastique médiéval, hein, vous avez raison, qui est là et tout à fait lié à l'eau. Voyez pas une autre chose, une autre inspiration qui a pu intéresser un sculpteur comme celui-là ?
Une inspiration exotique.
Pardon ?
L'Asie.
Par exemple.
Alors,
la mythologie scandinave, effectivement, ça fait d'ailleurs partie de cette espèce de tréfonds occidental merveilleux, hein, auquel l'art gothique et l'art des cathédrales se réfèrent, absolument. Hein. Donc, on est là tout à fait dans cette idée, espèce de mythologie occidentale, par exemple scandinave, hein, celtique, par exemple, dont l'art gothique avait son miel. C'est juste. Hein. Mais vous parliez également de l'Orient. Vous pensez à quoi, par exemple ?
Un Bouddha.
Bouddha ? La Chine ? Ouais ? Non. Non, pas la Chine. Pas Bouddha.
C'est pas serein comme Bouddha.
Pas serein comme Bouddha. Non, donc cette idée asiatique vous séduit pas ?
Non.
Vous, oui, mais pas les autres. Non, on sent plus, hein.
Dans les mêmes lieux.
C'est-à-dire qu'on a un homme grenouille et une grenouille. Donc si je résume, hein, on a une sculpture en bronze, en terre, patinée ou en pierre, qui représente un personnage aquatique qui tient une grenouille, d'ailleurs qui a l'air d'être une grenouille un peu lui-même, puisqu'elle a des mains de grenouille.
Oui.
Un personnage fantastique, qui vient de cette mythologie occidentale, plus ou moins celtique, très à la mode dans la sculpture médiévale, et qui évoque par exemple les cathédrales. L'une d'entre vous a parlé, sans rencontrer beaucoup de succès, hein, de questions asiatiques, et on a parlé de Bouddha, mais enfin cette affaire bouddhique n'a pas l'air de séduire le monde. Ok ? Je résume bien ? Bon. Une idée de la période. On est au début, au milieu, à la fin du 19e. Pas d'idée ? Bon, jetez-vous à l'eau, si j'ose dire.
Est-ce que ça serait le symbolisme ?
Plutôt quelque chose de symbolisme, donc plutôt vers la fin. Hein ? Ok. Bon, eh ben, écoutez, on verra en ramassant les copies tout à l'heure. Hein. Alors, là, c'est une pièce grande, grandeur nature, même un peu plus grande, si ma mémoire est bonne. Hein. Une idée de la matière ?
Pierre.
Pour tout vous dire, cette sculpture-là, d'ailleurs, ce sera le cas parmi les sculptures qu'on a vues, qu'on va voir, elle existe parfois dans différents matériaux. Hein. Quelquefois, il y a un modèle en plâtre, et puis des exemplaires en bronze tirés d'après le plâtre, et puis des exemplaires en marbre, enfin voilà. Hein. Donc, mais là, l'exemplaire, vous verrez, il est plutôt en pierre. Bon. Qui représente quoi, cette œuvre ?
Une femme.
Une femme.
Pensive.
Donc elle pense, elle rêvasse. Pensive, est-ce que c'est la seule chose ? Pensive, sans doute. Est-ce qu'il n'y a pas un autre sentiment qui peut être derrière le visage, l'expression de cette femme ?
Ben, je sais pas, on a l'impression qu'elle surveille, elle a quand même la tête.
Elle surveille. Donc une femme qui pense, mais qui surveille.
Ou qui attend.
C'est plus de l'attente, effectivement, que de la surveillance. Cette femme qui attend, à votre avis, est-ce que, par exemple, son vêtement peut faire penser à quelque chose ? Elle appartient à une... elle se réfère à une période particulière, cette femme qui attend. Est-ce que le vêtement peut vous faire penser à l'évocation d'une période ?
L'Antiquité.
Donc on aurait une femme antique qui attend.
Pénélope.
Non, parce qu'elle travaille
dans le même
ouvrage.
Non.
Bah, elle a le droit de se reposer de temps.
Pénélope se repose. Hein, parce que vous savez que Pénélope, elle n'arrive pas de tisser, de détisser, de retisser, de redétisser, etc. Enfin, de temps en temps, il faut qu'elle se repose. Donc, on aurait Pénélope qui se repose entre deux tissages. Mais tout le monde n'est pas là. En tout cas, une femme antique qui attend, qui réfléchit, qui pense, mais qui attend. Peut-être plus qu'elle ne surveille, qui pourrait être une Pénélope entre deux tapisseries, si j'ose dire. Voilà.
Elle est très musclée.
Hein. On parlait de Michel-Ange tout à l'heure, on sent que là, c'est quelqu'un qui a regardé le côté de Michel-Ange. Hein. Quelqu'un qui a. Hein, c'est pas une petite Pénélope, petit format, c'est une Pénélope qui. Hein. Bon, c'est vrai que de tisser, hein, avec un métier à tisser, ça. Hein. Bien.
Peut-être c'est pas en rapport avec son corps, je
trouve. Absolument, c'est-à-dire qu'il n'y a effectivement pas de rapport entre le corps et le drapé. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un corps, mais on ne voit pas comment le corps et le drapé vont ensemble. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, ça c'est très juste, oui. C'est du genre très typique de ce sculpteur, d'ailleurs. Et quel sculpteur, d'ailleurs ? Ça, c'est un des plus célèbres. Tiens, vous l'avez cité tout à l'heure.
C'est pas Bourdelle ?
Bourdelle ?
Oui.
Rodin. Non. Bourdelle, Rodin, je garde les deux noms, on verra tout à l'heure. Qui dit mieux ou moins bien ? Non, on garde ces deux-là ? Bien. Eh bien, écoutez, passons au suivant ou à la suivante. Alors, matière. Alors, c'est un lion, mais c'est en quelle matière, ça ?
Bon,
c'est un bronze. Ça représente effectivement un lion.
Qui terrasse quelque chose.
Un serpent. Un lion qui terrasse un serpent. Ah, voilà. Ok. Pardon ? Un lion qui terrasse un serpent. Bon, là, ça va, c'est pas trop compliqué. Hein. L'idée qu'il y a derrière une sculpture comme celle-ci, donc l'idée qu'il y a dans l'artiste qui l'a réalisée, c'est quoi ?
La force.
Pardon ? Oui, la force.
Le serpent,
c'est le démon.
Oui, le démon. On a une espèce d'animal qui terrasse le démon quelque part. Ouais. Bon, cela dit, un lion, c'est pas toujours hyper sympathique.
Hein.
Mais enfin, un serpent non plus. Donc, un lion qui terrasse un serpent, il y a donc quelque chose comme une sorte de lutte du bien et du mal qui peut être évoquée là, hein, d'une certaine manière. Hein, ouais. Et puis derrière cette lutte-là, est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui peut-être sont évoquées ? Par rapport à la sculpture précédente, par exemple, on avait une femme qui attendait, là, très, je vais presque dire très passive, en train de rêvasser et d'attendre.
Mais là, c'est plus dynamique.
Là, c'est un peu plus dynamique. Hein, voilà. Ce qui fait que cette sculpture-là, vous la placeriez quand ?
Réalisme.
Pardon, réalisme ?
Oui, peut-être, oui.
Ouais. Donc plutôt vers le milieu ou deuxième moitié du 19e ? Ouais.
Ouais.
Ok. Vous avez une idée de l'auteur ?
Alors ça.
Non.
Barry.
Non. Barry. Barry.
Animalier,
voilà, donc un artiste animalier. Barry, vous avez raison, c'est un sculpteur animalier du 19e. Hein. Donc pourquoi pas Barry, hein. Ouais, c'est une idée ça.
Oh non, c'est pas pour moi. C'est très lissé.
Pompon, ce serait lissé, là, c'est pas lissé. Pompon, ce serait pas aussi rigoureux que ça. Pompon, ce serait plus lisse. Donc gardons le nom de Barry en tête, on verra tout à l'heure. Bien. Parfait. Une œuvre néoclassique, je suis désolé, les photos sont pas. Aujourd'hui, la connexion est vraiment pas bien. Bien. Donc, on a effectivement un buste. En quelle matière ? Si vous tentez que vous arriviez à le voir sur cette.
Plâtre.
Donc, ce serait un buste en plâtre.
Diane Chasseresse.
Une Diane Chasseresse.
Ah oui, elle a la lune.
Donc elle a une lune dans les cheveux. Et elle a
la flèche.
Une flèche. Donc on est là devant un buste de Diane Chasseresse. Ok. Sur le plan du sujet, il y aurait autre chose à ajouter, hein ? On a un buste de Diane Chasseresse, point.
Diane, elle est rarement représentée de cette manière.
En buste ?
Oui.
Ouais. C'est vrai, souvent quand on a, par exemple, au 18e, la représentation de Diane, elle est complète, quoi. Enfin, un buste de Diane.
Elle a souvent cette position de tête, quand même.
Cette position de tête ? Oui, elle peut un peu altière, comme ça. Hein. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que, autant des Dianes, on en a en tête, notamment au 18e, elles peuvent, effectivement, les Dianes, en général, c'est les Dianes, c'est une déesse très fière. Hein. C'est la déesse de quoi ?
La chasse.
La chasse. Hein. C'est ça qui avait une flèche, d'ailleurs. Et puis c'est la déesse de quoi aussi ?
De la lune.
De la lune. Hein. Quand vous voyez une lune, c'est pas la lune, quand vous voyez c'est diable. Je vous rappelle. Hein. Et donc voilà, donc vous avez là une déesse Diane, mais vous avez remarqué que souvent, effectivement, elle n'était pas représentée en buste comme ça. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça. Ça ne met pas sur la voie de d'une autre idée. C'est bien une déesse Diane, hein, représentée là, mais en buste, de manière un peu étrange et bizarre. Finalement, on la voit normale, je veux dire, en vraiment, enfin, la totalité du corps, en action, quoi.
Moi, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, peut-être un portrait d'une comédienne, quoi. Quelqu'un qui.
C'est vrai que c'est très réalisé.
Posé, voilà, parce qu'elle a un visage qui n'est pas un visage antique, quoi. C'est
ça. Donc, on aurait. Pas une Diane, mais le portrait d'une personne en Diane.
Voilà.
C'est pas tout à fait pareil. Hein.
Oui, parce qu'elle a une petite fossette au menton, c'est pas tout le monde qui a ça.
Oui, on a effectivement l'impression de là, non pas d'une. Même si, enfin, la projection est détestable hein, ce soir, mais on a effectivement l'impression, non pas d'avoir une sorte de Diane. Un peu idéalisé. Hein. Tout à l'heure, on parlait du XVIIIe siècle. Hein. Vous avez peut-être en tête la Diane de Houdon, très célèbre au XVIIIe siècle, hein, qui est une Diane idéalisée, un peu parfaite, etc. Bon, là, on n'a pas cette impression. On a l'impression, effectivement, que le visage de cette personne est un visage, un vrai visage, je veux dire, mais qui joue Diane. C'est pour ça que vous pensez une actrice, quelque part. Hein. Donc, on aurait là la représentation de quelqu'un, d'une dame, sous les traits de Diane. Hein. Bon, ça ne nous étonnerait pas, d'ailleurs, parce que depuis le Moyen-Âge, ce genre de choses existe. Hein. Il est très très fréquent que des gens se fassent représenter. Alors, ça peut être en Vierge Marie, en Saint-Paul, en Saint-Dominique, en je ne sais pas quoi. Hein. Ou pourquoi pas en Diane ou en Apollon. Il hein. faut que je pense à me faire représenter en Apollon d'ailleurs. Voilà. Bien. Donc on aurait ici. Donc on aurait ici la représentation d'une femme en Diane. Hein. Cette sculpture, vous la situeriez à quel endroit au 19e, début, milieu, fin, là aussi ? Qu'est-ce que. Néoclassicisme, romantisme, réalisme, éclectisme, symbolisme, primitivisme ?
Je
Réaliste.
Réaliste.
Ou néoclassique.
Néoclassique.
Néoclassique. C'est-à-dire quelque chose qui est la reprise au 19e siècle de modèle de l'Antiquité.
Oui.
Ce qui est bien avec l'idée de Diane. Parce que Diane, c'est plutôt une idée de l'Antiquité quand même. Hein,
oui.
Hein. Donc on aurait là une œuvre néoclassique, donc du début du 19e. Ok. Et bon, on continue. Je ne vous ai pas demandé le nom de l'auteur pour la sculpture précédente. Pas d'idée? On verra tout à l'heure. Bon, je suis désolé, encore une fois, les projections aujourd'hui prennent toutes les nuances des photos. C'est très plat, alors que... Enfin bref. Alors que ça ne l'est pas.
Un plat
Là, c'est une pièce assez grande.
Plâtre.
Plâtre. Si c'est pas plâtre, c'est quoi?
Marbre.
Marbre. C'est un marbre, en l'occurrence. Hein. Je vous le dis parce que la photo est tellement mauvaise que... La projection est tellement mauvaise, c'est dur de le voir. Donc c'est un marbre, hein, qui est assez grand. Hein. C'est à peu près à taille réelle, ça. Pas tout à fait, mais presque. Alors, ça représente quoi?
Une femme allongée sur un lit de fleurs.
Allongée sur un lit de fleurs. OK. Donc c'est une... l'idée qu'il y a derrière ça, c'est quoi?
Une nymphe.
Une nymphe, OK. Ah ben, si j'avais su qu'on montrait de belles nymphes comme ça, je les aurais en plus. Me disais-je, j'en fais un petit cadeau de Noël, une jolie nymphe, ça, je quand même.
Elle est censée être morte ou...
Ah. Hey. Oui, est-ce que c'est vraiment une nymphe comme ça, qui se prélasse voluptueusement sur un tas de roses ou de fleurs?
Moi, ça me fait penser à Ophélie.
Ophélie, ça fait un peu penser à ça. Hein. Donc effectivement, derrière cette femme couchée, nue, n'est-ce pas, sur des fleurs, il y a une idée peut-être un peu moins sympathique. Hein. Vous pensez à Ophélie, vous pensez, vous disiez, mais est-ce qu'elle ne serait pas morte, etc. On peut se poser la question, parce qu'elle elle repose d'une manière un peu contournée, quand même, hein, qui fait un peu penser à la douleur, ou à... je vois, ça se passe peut-être pas si bien que ça, si j'ose dire. Hein. Qu'est-ce qui a pu lui arriver à cette pauvre femme qui est là, dans la nature?
Elle a rencontré l'homme
grenouille
de tout à l'heure.
Ah, peut-être. On comprend que ça, mais c'est étonnant. Mais là, t'as rencontré quelque chose d'autre.
Elle était
parée
tout simplement.
Tout à fait, ça fait penser à la prairie de Millet. Hein. Tout à fait, absolument. Hein. Vous vous dites à juste titre, Ophélie, on pensait à ça, une femme belle, jeune, voluptueuse, et qui pourtant est dans une situation un peu compliquée, peut-être. Hein. Donc il y a une espèce d'ambiguïté, le tableau de Millet dont vous parlez.
Non, moi, je dis, excusez-moi, elle était prête à faire
un. Oui, mais Millet, c'est un préalphalisme. Elle dit deux L à IS. Le Millet, digne des choix. Hein. Pas le Millet T français. Hein. Mais effectivement, vous avez raison. Hein. Ce tableau préalphalide de Millet, qui ressemble à cette jeune femme, c'est couchée dans l'eau, est à la fois très belle, très douce, etc. Et pourtant, elle tend à se noyer. Hein. Donc c'est effectivement cette idée-là, hein, tout à fait.
Hein. Elle peut être pâmée par l'amour aussi.
Ah, elle pourrait être pâmée par l'amour. Elle pourrait être pâmée par l'amour, c'est vrai. Mais à vrai dire, elle n'est pas pâmée par l'amour.
Elle est
pas. Là, je révèle quelque chose, elle n'est pas pâmée par l'amour. Elle est plutôt saisie par la mort. Pardon? Non. Ouais, je pensais que vous ajoutiez peut-être un petit point.
Elle a pas un serpent autour du poignet.
Ah ah. Alors c'est vrai qu'autour du poignet, il y a...
Ouais.
Il y a évidemment quelque chose, mais qui semble plutôt être un... un bracelet.
Ouais.
Mais ça dit que votre intuition est très bonne.
C'est Cléopâtre.
Ah, ça pourrait être tout à fait Cléopâtre. D'ailleurs, des Cléopâtres au 19e sculptés, ils ressemblent tout à fait à ça. À vrai dire, cette œuvre s'appelle Femme piquée par un serpent.
Ah oui.
Donc vous voyez qu'en marchant sur ce frais gazon, avec ses fleurs, eh ben, elle s'est fait piquer par un serpent. Donc vous voyez qu'on a là une espèce de volonté. Dans une œuvre, finalement, qui, quand on la regarde, est assez, me paraît assez légère, vous voyez, voluptueuse, une belle femme couchée, suffisamment accorte, mais qui, en même temps, évoque une tragédie, hein, une tragédie qui résonne avec d'autres grandes tragédies, Cléopâtre, hein, Ophélie, hein, Donc vous avez là un sujet où on passe du ventre urbain et de femme du coucher. Bon, ça, c'est ceux qui vont trop vite, qui ne regardent rien. Hein. Mais si on regarde un peu plus et qu'on voit un peu plus loin que ce bout de son nez, on voit qu'on est là devant quelque chose qui, finalement, manie presque d'ambiguïté. Hein. On est devant un drame. Ça a l'air sans problème. Eh bien, si, il y en a. Si on sait regarder, si on ne sait pas regarder, on ne voit jamais rien. Hein. Mais si on sait regarder, on se dit, oh, il y a quelque chose. Eh bien, en effet, on a ici une femme pliée par un serpent. Voilà, figurant, qui rebondit avec Cléopâtre, Ophélie et d'autres grandes figures.
Parce que la position de la tête, quand même, est suspecte aussi.
Absolument, tout à fait.
Elle ne contrôle plus.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, 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 absolument. Il y a une sorte de contorsion qui est quand même très... voilà, on sent qu'il y a un problème. Absolument. Parfait. Une idée de l'auteur. De la période. Début, milieu, fin.
Symbolisme, peut-être.
Symbolisme.
Romantisme.
Romantisme. Ah, romantisme, c'est intéressant, parce que pour rien vous cacher, le sculpteur qui avait ça était le gendre de l'écrivaine célèbre du romantisme en France, qui n'est autre que Georges Sand. Ça, c'est bien du gendre de Georges Sand. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas le gendre de Georges Sand. Bon. Eh bien, tout à l'heure, on va en parler. Mais voyons ça.
Ah, ben ça, c'est très primitivisme.
Primitivisme, ça, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est une œuvre à peu près de cette taille-là. Je suis désolé, hein, je n'ai pas les dimensions, c'est pour vous donner une idée. En quelle matière ?
En pierre.
Pierre ? Ouais.
Oui, terre.
Ou terre cuite, ouais. Ou terre cuite. Pierre ou terre cuite. Pardon.
Ça peut pas être du bois.
Pardon.
Ça peut pas être du bois.
Ah, ça peut être du bois. Ça irait bien avec l'idée de primitivisme dont vous parliez. Oui. Bon, en tout cas, pierre, terre cuite ou bois, on hésite entre les trois. Hein. Ok. Bon, encore une fois, les photos, la projection est tellement pas bonne que je t'ai dit d'aller plus loin, à mon avis. Ça représente quoi ?
Une tête de loup en bas.
Une tête de loup en bas, absolument.
Puis qu'est-ce qu'il a dans la main ?
Qu'est-ce qu'il a dans la main ?
Il a un animal.
Oui, ouais.
Elle tient un animal. Oui.
Alors, donc il y a déjà, elle c'est quoi ?
Une femme.
Voilà. Il y a donc une femme qui est debout, qui est nue, qui tient un animal.
Jean
Tahitienne. Et qui a une espèce de loup à côté d'elle.
Il y a un crocodile.
Un crocodile ?
Oui, non, je veux dire un crocodile.
Un crocodile. Il faudra penser aussi à ce qu'il y a des cours de zoologie. Zoologie. Alors, une femme nue, debout, qui tient un animal et qui a ses pieds un loup crocodilien ou un crocodile loupacien. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous avez quand même oublié de dire quelque chose.
Alors, elle a une position particulière.
Oui.
Elle est assise.
Qui sont un peu comme un Christ sur la croix.
C'est vrai, oui, ça fait penser au Christ, oui.
Elle doit, ouais. Elle doit être ouais. Assise sur quelque chose.
Assise sur quelque chose.
Il y a un nom en bas.
Il y a un nom en dessous. Il y a marqué quoi ?
Oviri. Ovipi. Ovipi.
C'est Oviri.
Ça
doit même se prononcer Owiri. Alors ça veut dire quoi ? Et alors,
c'est une déesse de quelque chose.
Une déesse de quelque chose. Donc a priori, on est là dans une sorte de déesse de quelque chose, effectivement. Parce que quand vous regardez ça, effectivement, ça vous fait penser à quoi ? Ça vous suggère quoi ? Parlez de déesse, qu'est-ce que...
Bon, oui, ça fait penser à une statue votive
ouais.
dans des temples.
Voilà, donc on pense, en voyant ça, on voit une statue, n'est-ce pas, qu'on voit dans les temples ou dans des lieux sacrés. Hein.
Petite, pas forcément très grande.
Pas forcément très grande, ça fait ça, décidément. Hein. Ouais. Et justement, ce genre de statue votive, vous verriez ça où, dans quel coin du monde ? Dans l'église Saint-Côme, peut-être ?
Oh ben non. Ah non, ça fait
très tahitien. Très tahitien.
Océanien,
en tout cas. Océanien.
Exotique.
Pardon.
Exotique.
Exotique, en tout cas. Hein. Bon, là, effectivement, c'est sorti du cadre des départs, ça fait vraiment partie de ce grand primitivisme de la fin du siècle. Ça n'avait pas trop de problème. Peut-être que vous avez une idée du sculpteur.
Ah ben, c'est peut-être Gauguin qui nous,
Gauguin
fait, qui nous aurait fait ça.
Donc, un peintre-sculpteur, alors.
Oui.
Hein?
Ok. Ah ben oui, il a fait des trucs.
Hein. Il a fait des sculptures. Voilà. Oui. C'est un vrai sujet, d'ailleurs, la question des peintres qui sont aussi sculpteurs ou des sculpteurs qui font aussi de la peinture. Hein. Ok. Donc, une sorte de figure, de fétiche, pourrait-on dire. Hein?
Oui.
D'idole, plus ou moins primitive, qui s'appelle Oviri, qui a à ses pieds un animal et qui en tient un autre, et qui fait penser à des idoles océaniennes et pourquoi pas tahitiennes, qui pourraient être une œuvre de Gauguin, en pierre, en bois ou en terre. Ok.
Ah oui, ça c'est du marbre.
Du marbre. Alors, ça, c'est une pièce qui est à peu près grandeur nature, même un petit peu plus grande, si ma mémoire est bonne.
Elle est à Orsay, non ?
Pardon ?
Elle est à Orsay.
Elle est à Orsay. Beaucoup des œuvres que je montre sont conservées à Orsay. Pas toutes, mais beaucoup. Donc, c'est du marbre. Du marbre ?
Ben oui, peut-être pas tout, mais.
Du marbre ?
De la pierre, en fait.
De la pierre ?
Oui.
Ou des marbres.
Ah, des marbres.
Oui.
Je dirais plutôt des marbres, effectivement, parce que vous voyez qu'il y a...
Des marbres colorés.
Voilà. Il y a des marbres colorés de différents types. Voilà. Est-ce qu'il n'y a que des marbres, d'ailleurs? Il y a peut-être d'autres...
Oui, elle a une ceinture qui...
Oui.
Bleue, voilà,
ce sera en quoi, ça? On la pisse les unies, absolument. Vous voyez qu'elle a une ceinture bleue. Vous aurez un petit morceau, là. Voilà. Puis au milieu, il y a même quelque chose d'une autre couleur.
Un scarabée.
Un scarabée. Qui est en quoi?
Turquoise.
Il est une couleur. Alors, non, c'est pas de la turquoise.
Jade.
C'est pas du jade. C'est plus... c'est moins transparent que le jade. C'est un vert, vous voyez, très dense. Très...
Aventurine.
Pardon?
Aventurine.
Non. Enfin, j'ai peu d'aventurine en tête.
Serpentine.
Non plus.
Sortir tout ce qui est vert.
Oui. C'est de la malachite.
Ah, malachite. Ah,
Bien malachite, ça ne profite jamais. On peut rigoler ce début d'année. voilà. Donc, des marbres ou des matières, en tout cas des pierres, je ne qualifierais pas de précieuses, mais enfin des pierres un peu particulières. Hein. Ce qui veut dire quoi d'ailleurs? Donc vous n'avez pas là un bloc qui a été taillé, vous avez quoi?
Plusieurs blocs assemblés.
Voilà, c'est donc un assemblage de pierres différentes. Ça suggère quoi?
De la dextérité.
Ah voilà, de la dextérité. Hein. C'est le genre de choses qu'on ne fait pas tous les matins. Enfin, peut-être vous, mais moi pas. Donc ce genre de choses demande une dextérité énorme. C'est extrêmement compliqué. Parce qu'il faut quand même que le voile, qui est d'une autre matière que la robe...
Puis qui est d'une finesse...
Voilà, terrible, vous voyez. Donc, il faut que tout ça s'imbrique l'un dans l'autre. Ouais. Et le buste et la tête sont d'une autre matière que le voile qui a par-dessus. Enfin, allez faire ça. Enfin, on voit, vous, si vous voulez, peut-être. Hein, ça tous les jours. Moi, ça me paraît très compliqué. Hein. Ça demande que c'est une dextérité inouïe, ça. Et puis, qu'est-ce que ça suggère d'autre, ça? Ces sculptures faites avec différentes pierres, différents matériaux ensemble.
Les connaissances des pierres, important.
Est-ce qu'il y a d'autres périodes où on a fait ça?
Dans l'Antiquité, il y en a.
Dans l'Antiquité. Et par exemple. Pardon ?
Romaine.
D'antiquité romaine, oui, seulement ?
Dans grec aussi.
Grec aussi. Quel est le grand exemple ?
Les crises éléphantines.
Les crises éléphantines.
Les crises éléphantines. Qu'est-ce que c'est que les sculptures crises éléphantines ?
De l'or.
Voilà. C'est ça. Les sculptures crises éléphantines étaient des sculptures faites en plusieurs matériaux, essentiellement, évidemment, de l'ivoire et de l'or. Hein, de l'or éléphantine. Défense d'éléphant, C'est donc des sculptures faites de différents matériaux, imbriqués comme ça, pour faire une sculpture. Quelle était en Grèce une ou deux des sculptures, les crises enfantines les plus célèbres, ultra célèbres?
Le Zeus.
De quel endroit?
C'est pas dans l'Acropole.
Ah, l'Acropole, il y en a une autre. Une sculpture qui s'est vendue très importante. Voilà. Athéna, dans le Parthénon. Hein. Ça, c'est quand même fondamental. Hein. C'est la base de notre culture, ça. Au Parthénon, à Athènes, il y a une énorme sculpture qui s'est fontine, qui est l'œuvre de Phidias, qui représentait Athéna, hein, la maîtresse d'Athènes. Alors, cette sculpture n'existe plus, mais elle était ultra célèbre, illustrissime. Et donc, dans le Parthénon à Athènes, il y avait fait par Phidias une grande sculpture qui s'est fontine représentant Athéna. Et il y en avait une autre à Olympie. Dans le temple de Zeus, à Olympie, il y avait fait par le même Phidias une autre sculpture chryséléphantine représentant Zeus. Hein. Donc, ces sculptures chryséléphantines, qui sont des espèces de chefs-d'œuvre inouïs, à la fois sur le plan plastique, mais au niveau de leur réalisation, c'est un mythe, si vous voulez. Quand vous êtes sculpteur, vous avez ça en tête, à n'importe quelle époque. Ouais. Parce que c'est fait partie de la mythologie sculpturale. Les sculptures chryséléphantines faites avec des matériaux différents, c'est vraiment quelque chose qui vous habite quand vous êtes sculpteur. Parce que Phidias, qui est le sculpteur des sculpteurs, le sculpteur mythique du 6e siècle avant Jésus-Christ, il a fait des sculptures chryséléphantines. Donc ça, si vous voulez, c'est une sculpture qui se réfère à ces sculptures chryséléphantines extraordinaires de l'Antiquité, que personne n'a jamais vues, parce qu'elles n'existent plus, mais qui ont été décrites par Pline l'Ancien, etc. Donc elles sont ultra célèbres, or qu'elles n'ont jamais vues. Donc ça fait penser à ça. À votre avis, qu'est-ce que ça représente?
Une femme.
Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, on est d'accord. Elle fait quoi?
Elle se protège.
Ou elle se cache.
On a plutôt l'air qu'elle ouvre son voile.
Ou elle ouvre son voile. Ah. Ouais. Évidemment, il y a les deux solutions. Soit elle se cache, soit elle ouvre son voile. Vous préférez la première ou la deuxième solution?
La deuxième
plutôt?
Oui.
Ouais. Donc c'est une femme qui ouvre, qui se dévoile. Si on pousse un peu plus loin ce cochonnet-là, et si on part sur le principe que c'est effectivement une femme qui se dévoile, ça pourrait être quoi? Quel genre d'idée?
Une Vénus.
Une descente. Donc ça pourrait être effectivement un thème mythologique, une déesse qui se dévoile, c'est la première solution. Est-ce qu'il y a d'autres solutions encore? Un peu plus, comment dire, allégorique, un peu plus. Un peu moins réaliste, enfin pareil, c'est un peu moins narrative. Plus allégorique. Par exemple, la vérité qui se dévoile. Hein. Ouais, la vérité qui se dévoile. Hein. Qu'est-ce que pourrait être d'autre encore?
Le jour qui apparaît.
Hein. Vous avez d'autres idées encore? En tout cas, ce que vous dites, c'est que ça peut être soit la représentation de telle divinité antique, hein, Vénus, etc., qui apparaît, ou alors la représentation d'une idée allégorique, du genre le jour qui apparaît ou la vérité qui triomphe. D'accord? Il y a donc les deux possibilités. Vous iriez plutôt vers la première ou vers la deuxième? Une sculpture représente une divinité en chair et en os qui se dévoile, ou bien une allégorie qui est incarnée?
Une allégorie.
Ok. Une idée de la période de réalisation de cette sculpture?
Symboliste,
donc plutôt la fin du siècle.
Ouais.
Ok. Alors, voilà une sculpture à peu près de cette taille-là. En quelle matière?
Bronze.
Impec. Qui représente?
Une femme.
Bien musclée.
Pas réaliste.
Une femme habillée.
Non.
Vous savez, moi, il faut tout me dire, parce que moi, si on ne me dit pas, je comprends. Il faut donner. Donc une femme nue couchée. Très bien. Qui nous permet de voir. Donc une femme nue couchée. Très bien. Le but du sculpteur, c'est quoi là? Musclée, effectivement, la femme. Hein. Il y a des volumes. Hein.
Là, il casse les codes.
Il casse les codes.
les proportions ne sont pas respectées, on a l'impression que les pieds sont énormes.
Absolument.
Voilà. Il y a une contorsion aussi au niveau de la position, c'est peut-être pas très habituel non plus.
Absolument. Donc je crois que vous identifiez bien la chose. C'est-à-dire qu'on a, quelqu'un disait, hein, des volumes, hein, mais on a également une attitude, ouais. Et je dirais un détail de l'anatomie qui, l'un et l'autre, ne sont pas du tout réalistes. Quoi, hein. Des gros pieds, et on a l'impression en fait, de volume mis les uns derrière les autres, mais qui, au niveau du volume lui-même de chaque élément, mais aussi de leur combinaison, n'ont rien à voir avec la réalité. Ouais. Donc ce qui intéressait le sculpteur, ce n'est pas du tout de faire les choses de réaliste. Hein. Absolument. Hein. Donc c'est plutôt de travailler le volume et la combinaison des volumes, quitte à s'éloigner de réalité anatomique.
Ça ne serait pas l'œuvre d'un peintre ?
L'œuvre d'un peintre ? Bonne idée, ça. On a vu qu'il y avait des peintres qui faisaient des sculptures ou des sculptures qui faisaient des peintures. Très juste. À qui vous pensez ?
Je ne sais pas, je trouve que le visage ressemble à Matisse. Mais...
Donc Matisse ? Pourquoi pas ? Voilà peut-être un autre peintre qui fait de la sculpture. Hein. Matisse, c'est intéressant parce que on connaît bien chez Matisse les nus comme ça, qui sont justement des espèces de patchwork. Vous connaissez les papiers découpés, oui. Matisse, hein. Voilà, hein. Et bien, c'est un peu la même idée, mais en sculpture. Donc, l'affirmant, on aurait, à l'inverse de la sculpture précédente, hein, derrière laquelle il y avait visiblement une idée, soit une divinité, soit une allégorie d'un thème, hein, on aurait là, au contraire, quelque chose de vraiment plastique avant tout. L'idée, c'est de représenter une femme nue, ça ne va pas chercher plus loin. Ce qui va chercher plus loin, c'est la dimension plastique, hein. Et donc, on garde cette idée de Matisse en tête. OK. Jeanne d'Arc à Don Rémy. C'est le titre de l'œuvre. Bravo. Alors, pourtant, enfin, c'est vraiment immonde ce soir, je comprends pas. Bref, Jeanne d'Arc à Don Rémy. Vous l'avez reconnue pourquoi ?
Je pense que je l'avais déjà vu.
Vous l'aviez déjà vu ?
J'avais dû me rappeler quelque
chose. Oui, oui. Et c'est à quel moment précisément ? Voilà, au moment où elle entend ses voix. Vous savez, Jeanne d'Arc est là, elle garde ses moutons, puis tout d'un coup, on entend les voix. C'est Jeanne d'Arc, non, on ne sait pas. Voilà. Cette œuvre-là, que vous voyez très mal à l'écran, je suis désolé, vous la mettriez donc quoi, là aussi, début, milieu, fin, pour vous, ça se passe quand, ça ?
Milieu.
Plutôt, donc, si on reprend le schéma de couleur, ce serait réalisme, quoi.
Peut-être, oui.
Le moment que... Bah, de fait, moi, je trouve que cette idée est pas mal, parce que, même si vous voyez très mal, hein, vraiment, c'est très mauvais, mais... Bon, on a l'impression de voir une bergère, et puis voilà, quoi. Hein, bon, avec son fichu, c'est pas la sculpture d'avant. Hein,
non.
On a vraiment l'impression de quelque chose qui, effectivement, présente une vraie bergère. Bon, je trouve que c'est Jeanne d'Arc, parce qu'elle écoute ses voix. Bon, enfin, c'est traité de manière réaliste. Donc, on aurait peut-être une idée d'un sculpteur ? Non. Eh bien, on verra tout à l'heure.
Une vieille femme.
Toute maigre.
Ouais. Pardon ?
En haillons.
En haillons. Ouais. Ou ce qui reste de ses haillons, d'ailleurs. C'est une vue à peu près grandeur nature. Une idée de la matière, là ?
Plâtre.
Ouais.
Je fais penser à un personnage de danse macabre.
Un personnage de danse macabre. Oui, décidément, tout à l'heure, déjà, avec notre grenouille, vous savez, hein, là, de nouveau, on convoquerait un peu ce vocabulaire un peu néo-médiéval, hein, des danses macabres du XVe siècle, vous savez, où il y a des personnages plus ou moins moribonds les uns derrière les autres qui sont en train joyeusement de danser. Ouais. Et là, à votre avis, c'est une œuvre qui a quel statut ? Encore une fois, il s'agit de la représentation de Madame Machin, qui est une mendiante, je ne sais où, au XIXe siècle. Ou bien est-ce que c'est autre chose ?
C'est la vieillesse.
Oui. C'est la représentation, donc plutôt la vieillesse avec un grand V, si j'ose dire. Hein ? Voilà. C'est donc plus qu'une représentation universelle que le portrait d'une vieille femme. Hein ? C'est la représentation de la vieillesse. Okay ?
La misère.
La vieillesse, la misère. Hein, puisqu'évidemment, il y a des haillons. Hein, l'idée de la vieillesse miséreuse. Hein. Très bien. Et là aussi, début, milieu, fin. Néoclassicisme ?
Non.
Pas trop, hein ? Romantisme ?
Non.
Donc plutôt après. Bien.
Alors, nu féminin.
Un nu féminin debout, voilà.
Avec un
râpé. Très bien.
Puis la tête renversée.
Oui, la tête renversée, absolument.
En marbre.
En marbre, absolument. C'est à peu près grandeur nature, parfait. Bonne description. Elle a effectivement la tête un peu renversée, et tout ça évoquerait quoi ?
L'extase.
Une sorte d'extase.
Ou un regret.
Ah, un regret, peut-être aussi.
Peut-être Ève qui...
Ah, Ève qui regrette le paradis perdu. C'est une idée.
Un peu langoureux, je dirais.
Ah oui, un peu de langueur,
ouais.
Ouais. Si je mets un peu ensemble tout ce que vous voulez dire, ce serait quelque chose comme une sorte de volupté langoureuse, peut-être. Hein? Quelque chose qu'on a, mais qu'on n'a pas, et qu'on aimerait avoir, qu'on a en partie, mais pas vraiment, puis on aimerait en avoir plus, mais il n'y en a pas assez, puis si on avait davantage, enfin bref. On est un peu entre les deux. Hein. Très bien. Parfait. Qu'est-ce que, à votre avis, est-ce qu'il s'agit plus, un petit peu comme on a vu déjà, d'une représentation allégorique d'un sentiment, la volupté, ou par exemple, hein, ou la longueur, avec un grand L ou un grand V? Ou bien est-ce que ce serait plus la représentation d'une figure particulière ?
Non.
Une idée, oui. C'est plus une idée, une allégorie. Et vous classeriez cette sculpture à quelle période, vous ?
Romantique.
Romantique. Une idée du sculpteur ? Non.
Ah,
oula,
c'est Jane et Guimauve.
C'est un singe un peu spécial.
Il emporte
une femme. C'est donc un singe, mais quel type de singe ? Pardon, c'est King, quasiment King Kong. Mais King Kong a été inspiré de ça. Hein. Ah oui. Et tous les arts se tiennent.
Il y a une pierre dans la main.
Oui.
Une pierre dans la main.
Ouais. Donc c'est un singe, moi je dirais plutôt un gorille.
C'est un gorille.
C'est-à-dire un grand singe. Hein, qui tient une pierre dans la main et enlève une femme de l'autre.
Ouais.
Waouh.
Elle se défend quand même.
Ah oui, elle se défend. Elle peut toujours essayer. Hein.
Ouais. Voilà.
Elle se défend. Elle est. Hein? Et l'idée derrière tout ça, c'est quoi ?
Il n'y a pas un serpent
Oui, on dirait qu'il y a un serpent sur le socle.
Ah oui, un serpent, pour corser un peu l'affaire. Je ne sais pas si c'est un serpent. Si, ça a l'air d'être un serpent. J'avais jamais remarqué, tiens. Bravo. Ouais. Bah, c'est-à-dire que ce n'était pas assez dramatique. Il fallait rajouter un serpent. En plus, comme ça, s'il n'est pas déclinqué par le gorille, il y aura toujours le serpent. Voilà. Donc, si vous voulez, comme ça, c'est radical. Il n'y a pas de problème.
Oui, c'est violent quand même. Hein. Oui,
c'est violent.
Ouais.
C'est violent. Et
sa pierre dans la main.
Ouais. Oui, c'est fou. Il est lourd. Hein.
Oui.
En tout, ils sont du terme, d'ailleurs.
Est-ce que c'est une scène tirée d'un roman ou de...
Alors c'est vrai que ça fait beaucoup penser à ça, vous savez, ces espèces de romans fleuves, que les, vous savez, ces romans qui paraissaient en feuilleton au XIXe siècle, dans les feuilles, hein, étaient bourrés d'histoires comme ça, des choses extravagantes. Hein. Vous savez, quand on lisait de Garpeau et autres, il y a des choses extravagantes, hein, des histoires à dormir debout, de singes qui font des trucs incroyables, qui vont chez des gens, enfin voilà, il y a derrière ça un imaginaire fantastique inouï. Hein. Nous, on est raplapla au XXIe siècle à côté de ça. Hein. On dit au XIXe, on invente des trucs. King Kong n'est finalement qu'un ersatz de ça. Hein, voilà. King Kong n'invente rien. Hein. Pas grand-chose. Si, il monte sur l'Empire State Building. Bon. Ok. Une idée d'un sculpteur ? Pas vrai. quart d'heure idée. Voilà. On va aller un petit peu plus vite pour les dernières, pour pouvoir après ramasser les copies.
Combien j'en suis là.
C'est une femme à sa toilette.
C'est une femme à sa toilette. Ouais. Donc une femme à sa toilette, elle est effectivement couchée, nue, dans un tub. D'accord ? Alors là aussi, je vais donc un petit peu plus vite, mais une idée d'abord de matière.
Percute.
Une idée de période.
Réaliste.
Une idée d'auteur.
Pas du tout.
Hop, suivant. Alors là, c'est grandeur nature. Une idée de matière. Je suis désolé vraiment, mais c'est presque sacrilège de vous montrer ça avec cet horrible truc. Je sais pas pourquoi ça marche si mal. On voit rien. Je veux dire, là, je ne vois pas comment vous pouvez trouver quoi que ce soit. On voit rien. Alors, néoclassique. Il y a une petite inscription.
Oui, grâce au
prisonnier. Grâce au prisonnier, voilà. Alors, ça veut dire quoi?
C'est quelqu'un qui demande grâce.
C'est quelqu'un qui demande grâce. Ok. Très bien. Je vais un peu plus vite parce que. Hein, oui. Voilà.
Faut démêler.
Donc voilà une sculpture qui est voilà, à peu près non comme ça. Qui représente quoi en deux mots?
Une alien.
Une femme indienne.
Non, une alien.
Une alien. Ah, une alien, pardon. Une femme avec des espèces de tentacules. Ok.
Un monstre.
Des dreadlocks monstrueux.
C'est pas un serpent, non?
Des serpents, peut-être.
Des algues.
Oui. Sorte d'algues. Oui.
Les jambes sont squelettiques.
Les jambes squelettiques. Donc une sorte de monstre à tête
bizarre.
Caché,
charmé. À moitié caché.
C'est dans quelle matière? Plâtre. Et le sculpteur. Bon.
Ça, c'est plus lent.
Un bas-relief. Une dame avec des poutis tout autour. Elle évoquerait quoi, cette dame, ou ce bas-relief qui fait à peu près cette taille-là, et qui est au musée d'Orsay, comme la plupart des choses que nous avons vues, sinon toutes.
Fécondité,
c'est une bonne idée. Parce que qu'est-ce qui fait pour la fécondité?
Elle est bébé, là.
Oui, c'est ça. Hein. D'abord, elle-même, elle est assez à corte, enfin, la nonne. Et voilà, elle sourit, elle est au milieu d'une nature profuse, on a l'impression qu'il y a des fruits qui tombent en permanence. Donc, une sorte de manière, effectivement, de montrer une sorte de fécondité remplie à plein de gosses. Hein. Voilà, donc une sorte de manière. L'auteur, un des plus célèbres du 19e. Vous avez même cité tout à l'heure.
Carpeau.
Ouais, Carpeau. En quelle matière?
Bois.
Qui représente?
Une femme.
À genoux, bien
assise
ou bien.
Elle danse.
Elle danse.
Elle danse, elle est en train de se lever,
là, les gens. Enfin, je ne vais pas vous le faire, hein, mais vous savez, dans les ballets russes, les gens sont capables de faire des choses. Hein, voilà. Alors, une idée d'un sculpteur, illustrissime, mais pas cité tout à l'heure. Alors, on verra. Qu'est-ce qui se passe, là?
Il y a une tortue.
Oui.
C'est néoclassique, ça, parce que...
Néoclassique.
On a vu des
Ça fait penser effectivement à des sculptures antiques. Hein.
Ouais.
Je pense à l'enfant, à la voix de Béotos, par exemple. Oui. Qui représente donc un jeune homme avec une tortue. Ce jeune homme, il est quoi d'ailleurs? Quelle est sa fonction? Il y a un détail qui permet de le voir.
Le filet.
Ouais.
Pêcheur.
C'est donc un pêcheur. Un jeune pêcheur, sur la Saône, certainement.
Oui. Non. Pourquoi pas. Tortues de
Saône. Oui, il y a des tortues de Saône. Tortues, hein.
Les gens se poussent pour aller voir les tortues de Saône.
Eh bien, voilà. Donc, un petit pêcheur de la Saône avec une tortue. On est d'accord? Et le sculpteur?
En marbre.
En marbre,
oui. Le sculpteur.
Non. Un sculpteur bourguignon. Eh oui. Et là ?
Bois.
Du bois, bravo.
Alors, c'est un... Oh là là, un serpent.
Un serpent.
Non, c'est une tête.
Ah, une tête.
Il y a un serpent. Regarde.
Ah, un
serpent. Tac, regarde le serpent. Ah oui.
Bah oui. C'est une tête avec des yeux, une bouche, un nez, des cheveux.
C'est les solutions du serpent qui font la tête.
Donc, on aurait quelque chose qui combine un serpent...
Ouais.
Oui, voilà.
Ouais.
Mais qui forme une tête.
Ouais.
Ça, vous verriez ça sur ce relief en bois à quel moment au 19e ?
La fin.
Ouais. Pardon ? Primitivisme, absolument. Ouais. Tout à fait. Très bien.
Encore un bas-relief.
Un bas-relief. En quelle matière ? En bronze. Qui représente quoi ? Des soldats ? Pas que.
Pas que, puisqu'il y a un enfant.
Il y a un enfant.
Ouais.
Et puis il y a aussi d'autres gens.
Femme,
il y a des femmes.
C'est pas ce qui est.
Un relief d'Arc de Triomphe ?
Non, mais ça me fait penser.
Fait penser à ça ?
Ouais.
Vous verriez ça quand, vous ? Pardon ?
Il y a écrit tuerie.
Ah, bravo ! Il y a marqué tuerie. Ouais. Pour une fois que je n'ai pas barré le texte. Hein. Tuerie. Hein. C'est le nom de la sculpture. Tuerie. Le fait, ça représente un massacre.
Les saints innocents. Non.
Un massacre. Bon. On arrive vers la fin, je crois. Peut-être encore deux ou trois. Alors,
un homme,
voilà, décrivez ce que vous voyez, moi, vous tout me dire, enfin, je ne vois rien. Alors.
Qui a des sabots.
Voilà, un travailleur qui a des sabots. Ouais. Donc là, a priori, on est dans quelle période réaliste. Hein, ouais, voilà.
Et qu'est-ce qui est posé un outil
oui.
Que j'identifie.
Oui,
il a un outil. Oui, ouais. Il y a effectivement un outil posé. Ouais. Ah, donc on est, et puis il est en train de surmonter les manches. Hein.
Ouais.
Le sculpteur, peut-être ? Non.
Un jeune homme.
Avec un oiseau.
Avec un oiseau, c'est quoi comme oiseau ?
Une poule.
Ou bien un coq. C'est un coq.
C'est un coq,
ouais. Voilà. Et jeune homme, et pourquoi est-ce qu'il court avec son coq ?
Ça, bonne question.
Il fait les Olympiades.
Ça s'appelle la course au coq.
Et vous mettriez ça à quel moment ?
En 2024.
C'est
bien au château de Germain.
Ouais, très bien. Allez, on termine rapidement les dernières pour que je puisse après, mais ça va en même temps. C'est grandeur nature, c'est en plâtre. Là, je finis par tout vous dire. Et ça présente quoi ?
Un homme.
Nu.
Un hôtel.
Une sorte d'hôtel près de cet homme nu.
Il y a une tête
sur l'hôtel. Tandis,
ouais.
C'est quel genre de chose, ça ?
C'est bizarre.
Oui, parce que.
Bah, je vous ai montré pas mal de choses bizarres aujourd'hui.
Mais
je vous ai dit, la sculpture en France au 19e siècle, c'est étrange, c'est original, singulier. La preuve en cale sur tout.
Ouais.
Vous voyez que c'est extrêmement singulier. C'est absolument pas des choses habituelles.
Ouais.
Très, très spécial.
C'est un buste, exactement.
Un buste posé sur une espèce d'autel, effectivement. Ouais. Je veux dire, c'est quel genre de chose, cette sculpture ?
Un hommage.
Un hommage funéraire, peut-être.
Ouais. Oui, mais en même temps, il a une drôle d'attitude.
Ouais.
Il n'est pas du tout dans la vénération.
Non.
Il pleure.
Ah, il pleurerait.
On dirait qu'il y a la tête accrochée à quelque chose.
Ouais. Bon, donc on a quelque chose qui a l'air d'être une espèce de monument commémoratif, ça vous disiez, hein, voué au personnage dont on a la tête sur l'autel, et le personnage qui est à côté, le personnage nu, grandeur nature, là, qui est un monsieur, hein, je le précise, donc là, vous ne l'auriez pas vu. On attend des cours de... Voilà. Eh bien, ce serait là qui pleurerait, qui déplorerait le souvenir du personnage. Vous avez là une idée du sculpteur? Non.
Non.
Eh bien, on verra tout à l'heure. Et là?
Ah ben tiens, c'est presque le penseur.
C'est le cousin du penseur.
Le cousin du penseur, de Rodin.
Oh, il est appuyé sur une tête, quand même.
Il est appuyé sur une tête.
Égyptienne.
Champollion.
Champollion.
Ah oui.
Ça c'est une idée, quoi.
Ouais, ouais.
Champollion. Donc on aurait là un portrait de Champollion. Peut-être. Bien. Et on termine par une chose très égyptienne encore. Pompon. Ah, ben voilà. Vous voyez qu'on y arrive quand on veut. Hein,
à la fin.
Voilà. Hein, pompon. Une sculpture complètement égyptisante, par ailleurs. Hein, vous connaissez ces petits, on en a parlé il y a 2 ans, là. Hein. On en avait des hippopotames comme ça, en faïence bleue égyptienne. C'était l'année dernière, d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà, donc on est là, chez Pompon, hein, qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la statuaire animalière d'Égypte antique. Hein. Ce côté très épu, etc., vient directement. Bien, bravo. Donc ça, on met ça au début du 19e, c'est néoclassique, ça.
Non,
c'est plutôt, effectivement, de la fin. On est d'accord. Bien. Alors, prêt pour... Bien. Oh, non. Non, mais je crois que, bon, on a quand même beaucoup parlé autour de ces œuvres. Grosso modo, d'ailleurs, vous avez tout vu. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuvre auquel vous êtes totalement passé à côté, etc. Disons que vous êtes allé plus ou moins loin dans le sujet, mais grosso modo, quand même, vous avez tout vu.
Ah, c'est le problème des sculpteurs.
C'est le premier. Alors voilà, c'est ça. Et ça montre bien quand même, d'abord... l'extraordinaire inventivité que vous avez vu là.
Mais c'est vrai, parce qu'il y en a un paquet.
Il y en a des quantités. Et là, j'ai fait un petit écrémage de quelques-uns des sculptures les plus importants. Mais j'aurais pu faire le double, le triple, sans problème. Hein, vraiment sans problème. Mon problème a été de faire le tri. Hein. Et il y a là-dedans quelques sculpteurs super célèbres, que vous connaissez absolument tous et toutes, sans aucun problème. D'autres beaucoup moins connus. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a le nombre et la qualité, et l'inventivité. Or, décidément, c'est un sujet qu'on ne connaît pas, qu'on n'aborde jamais. Sauf à l'UTB. Bien. Alors, heureusement qu'il y a l'UTB là. Hein. Alors, mettons tout ce petit monde en ordre, puisque les diapositives que je vous ai montrées en désordre, là, je les ai réordonnées pour qu'on essaie de voir plus clair. Hein. Le néoclassicisme, qui correspond donc à la première période que nous avons identifiée tout à l'heure, effectivement, cette œuvre en fait tout à fait partie. Hein. Le sculpteur, il s'appelle Chinard, un sculpteur lyonnais, et vous aviez bien vu, hein, c'est un portrait d'une femme qui est présentée sous les traits du diable. Vous l'aviez bien vu. Alors, cette femme n'est pas une actrice particulièrement, mais là, elle joue bel et bien le rôle de diable. Hein. Donc, vous aviez parfaitement vu. D'ailleurs, dès le XVIIIe siècle, on a ce genre de choses, et même dans des siècles précédents. Donc, une sculpture typiquement néoclassique qui se réfère à l'Antiquité, mais qui, malgré tout, est bien du XIXe siècle. Autre œuvre, celle de Bosio, que vous voyez là, qui représente Hyacinthe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Hyacinthe. Hyacinthe, c'est celui qui a donné son nom au jacinthe. Hein. Hyacinthus, la jacinthe vient de là. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Jacinthe. Jacinthe était un jeune berger de l'Antiquité grecque, très beau, très jeune. Il se trouve que Apollon était tombé amoureux de lui, mais il n'était pas le seul. Il y a un autre dieu qui était tombé amoureux de Jacinthe, c'est le dieu Zéphyr. Zéphyr, vous savez, c'est un des dieux du vent. Hein, et il se trouve que Zéphyr était très jaloux du fait qu'Apollon soit également tombé amoureux de Jacinthe. Et un jour où Hyacinthe et Apollon jouaient au disque, parce que vous n'avez pas remarqué, et un jour où ils jouaient au disque, Apollon et Hyacinthe, Zéphyr a fait en sorte de souffler du vent sur le disque pour qu'il aille taper contre la tempe de Jacinthe, enfin de Hyacinthe, qui est mort quasiment sur le coup. Là, vous voyez Hyacinthe qui est en train d'agoniser. Il a reçu son disque, là, en pleine tête. Il va mourir. OK ? Mais quand il est mort, pour pas qu'il meure complètement, Apollon a décidé de transformer en fleur, en Hyacinthe. Donc les Hyacinthes qu'on voit, c'est en fait Hyacinthus, Hyacinthe, qui est donc l'amant d'Apollon. OK ? Donc une sculpture grecque dans le néoclassique, au niveau de son traitement, vous l'avez dit tout à l'heure, on dirait une sculpture grecque. Hein ? Voilà. Mais d'ailleurs aussi au niveau de l'histoire qui est racontée. Voilà aussi une sculpture. Alors, elle est due à un artiste qui s'appelle Pradier. Elle présente Chloris, qui est caressé par Zéphyr, le même Zéphyr dont on vient de parler. Hein. Parce que Zéphyr n'était pas que amoureux de Hyacinthe, il était aussi amoureux de Chloris. Chloris, c'est la déesse des fleurs. Chlorophylle, d'ailleurs. Hein. Elle vient de là. Hein. Chloris est amoureuse des fleurs. Et elle est également amoureuse de Zéphyr, qui est amoureux d'elle. Et là, vous voyez Chloris qui est caressée par le vent de Zéphyr. Vous avez bien senti la volupté extrême qu'il y avait dans l'œuvre. Hein. Parce que le vent est en train de caresser Chloris. Hein, d'où l'idée de cette œuvre, qui est une œuvre effectivement encore très néoclassique. Hein. On a l'impression d'avoir une sculpture grecque. Vous vous rappelez, on avait fait il y a des années hein, des ateliers sur la sculpture, des cours aussi là-dessus. On a l'impression de la Vénus de Cnide, par exemple, de Praxitèle, sauf qu'on n'est pas au IVe siècle, on est au XIXe siècle. Hein. C'est donc une reprise des schémas antiques au XIXe siècle. Deuxième chapitre, le romantisme. Cette œuvre, vous l'aviez mis plutôt dans le néoclassicisme. Vous n'aviez pas tort, d'ailleurs, parce que, je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, hein, ces cases, elles sont pratiques dans notre esprit, mais elles s'interprètent, vous voyez ce que je veux dire. Et l'œuvre que vous avez là est une œuvre qui est encore très néoclassique, mais qui est déjà très romantique. Elle est très romantique en ce sens qu'elle représente une passion. Les romantiques, c'est ça. C'est l'inverse d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on est une époque rap-la-pla où tout est atone. Hein. Le romantisme, c'est l'inverse. On est passionné. Tout est passionnant à l'époque romantique. Hein. Vraiment, c'est l'inverse du XXIe siècle. Et donc, à l'époque romantique, n'est-ce pas, ça bouge. Il se passe des choses, tout le temps. Eh bien, là, on est dans une sculpture qui serait néoclassique s'il n'y avait pas cette espèce de mouvement, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, le thème qu'il y a derrière est un thème important. En fait, ce que vous voyez là, par David d'Angers. David Danger, un sculpteur important, il y a même à Angers un musée spécialement à ce sculpteur, un grand musée. David Danger, il représente ici le général Bonchamp. Le général Bonchamp, c'est un général de la guerre de Vendée, vous savez, c'est un général qui était anti-révolutionnaire, et il a été arrêté, et il a en fait demandé à ce que, il a été blessé aussi, il a demandé à ce qu'on fasse grâce aux prisonniers, si vous voulez. Lui allait mourir, et avant de mourir, il a dit, alors que ses partisans allaient exécuter les prisonniers qui étaient dans leur camp, eux, si vous voulez, il a demandé avant de mourir, lui-même, qu'on n'exécute pas les prisonniers. Vous voyez ce que je veux dire? Il était vendéen, hein, il était donc du côté de la réaction royaliste, si vous voulez, il a pris une balle dans la poitrine, il va mourir, et au moment où il meurt, plutôt de dire bah, « Tiens, pour me venger, exécuter les autres, là, que vous avez fait prisonnier », il dit au contraire « Grâce aux prisonniers ». C'est donc, si vous voulez, une grande passion extraordinaire. Il est capable, au moment où il meurt, de faire grâce à ceux qui l'ont tué, quelque part. Hein. Donc c'est un sujet éminemment romantique. Voilà une œuvre de ce courant de David d'Angers, très célèbre. Une œuvre de Barry, vous l'aviez trouvée. Hein. Barry qui est effectivement le grand sculpteur animalier. Mais vous voyez, ce n'est pas un Pompon. Hein. Pompon qui, effectivement, on le disait tout à l'heure, fait des œuvres très légères, très douces. Là, on est dans une sorte de passion. Il y a eu autrefois au musée de Lyon une exposition sur Barry qui s'appelait « La griffe et la dent ». Parce que Barry, c'est ça. Tu vois. C'est pas des animaux un peu plan-plan qui sont là. C'est des animaux qui sont en train de se battre. Il y a de la passion. Tu vois, hein. Donc Barry, c'est un sculpteur animalier, mais romantique. Et puis Rude, notre Rude, un bourguignon. Eh bien, ça, c'est de Rude. Rude, c'est quand même l'Arc de Triomphe, enfin, vous savez, la Marseillaise, c'est même pas rien, Rude. Hein. Eh bien, voilà une œuvre de Rude. Hein. C'est pas un sculpteur de. C'est pas un pêcheur de la Saône, c'est un pêcheur napolitain qui joue avec une tortue. Donc, une œuvre extrêmement célèbre de Rude. Vous savez, les romantiques, ce qui les passionne, c'est aussi l'ailleurs. Tous les romantiques vont en Italie. Hein. Il faut aller voir l'Italie. Parce que l'Italie est une sorte de laboratoire, d'une sorte de vie parfaite telle qu'elle existait jadis. Et donc, Rude est quelqu'un qui est passionné, comme tous les romantiques, par l'Italie. Donc, évidemment, il voit cette scène-là sur le port de Naples. Peut-être un petit pêcheur qui est en train de jouer avec une tortue. Quoi de plus pittoresque, si vous voulez? Les romantiques sont passionnés par le pittoresque. Eh bien, il représente une scène pittoresque. Vous voyez que le petit pêcheur, il a un chapeau parfaitement napolitain. On est devant une scène romantique. très haut. Ça aussi, c'est un grand sculpteur romantique. C'est lui donc qui représente cette tuerie. Une œuvre romantique cime. Hein. Vous voyez, il montre en plus des personnages en buste. Dans 2 mètres carrés, vous avez 10 personnages. Hein. On a l'impression d'un Delacroix, zoomé en quelque sorte. Vous connaissez le massacre de Kyo?
Oui.
Vous connaissez le massacre de Kyo? C'est la même chose. C'est la même chose, mais en sculpture. Hein. On est là devant une œuvre tout à fait romantique. Tuerie, un chef-d'œuvre de Préau. L'éclectisme. L'éclectisme, vous savez, c'est ce fourre-tout au milieu du 19e, là, hein, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Alors, notre femme piquée par un serpent, vous aviez bien trouvé le truc, hein. Notre femme piquée par un serpent, on fait tout à fait partie, hein. On a à la fois une femme voluptueuse, puis en même temps c'est Cléopâtre, mais elle rappelle Ophélie, enfin bref, il y a un peu de tout. On a cette espèce de personnage un peu dégingandé, fait par le gendre de Georges Sand, c'est appelé Clessinger, puisque Clessinger a épousé la fille de Georges Sand. Hein. Là, autre œuvre tout à fait éclectique, celle de Falguière, qui représente le vainqueur du combat de coq. Il est vachement content, parce que c'est son coq qui a gagné, alors il emmène son coq en triomphe, si j'ose dire, après le combat de coq. Hein. Vous voyez, c'est des espèces de sujets un peu, à la fois un peu légers, qui viennent un peu partout, qui mélangent le gai, le triste, et ça, c'est vraiment une espèce de fourre-tout de l'époque éclectique, la période éclectique, à laquelle Carpeaux, vous l'aviez bien trouvé, hein, fait partie avec cette Flore. Hein. Flore, c'est une des déesses de la nature. C'est elle que vous voyez là, dans le triomphe de Flore. C'est d'ailleurs un relief qui avant ornait le pavillon de Flore au musée du Louvre. Hein. Bon, maintenant, l'original a été remplacé par une copie, et l'original est au musée d'Orsay. Mais l'original était fait pour décorer le pavillon du même nom au Louvre. Et là, vous l'aviez bien trouvé par un sculpteur que vous avez cité tout à l'heure, Bartholdi. Hein. Et ça représente effectivement Champollion. Hein. C'est donc là un portrait de Champollion en Champollion. Hein. Mais avec cette idée un peu étrange qui est, vous l'avez remarqué, hein, qui pose le pied sur la tête d'un colosse égyptien. Hein. Il n'y a que les éclectiques pour faire ça, c'est quand même une sacrée idée. Hein. Voilà, plutôt que vous présenter, vous savez, Champollion assis comme ça, avec peut-être une tablette de hiéroglyphes, il nous présente Champollion en train de réfléchir à ses hiéroglyphes, un pied sur un colosse. Il faut quand même le faire. Hein. Ça, c'est très très éclectique comme idée. Éclectique aussi, c'est cette sculpture fameuse, hein, de Frémiet. Frémiet, c'est un personnage qui est lié à Rude, d'ailleurs, familialement parlant. Hein. Souvent, ces sculpteurs sont familialement liés. Hein. Et c'est lui qui a réalisé ce gorille en grande femme, une sculpture incroyable qui a eu, au XXe siècle, un écho énorme. Les surréalistes ont été passionnés par cette sculpture. C'est incroyable. Il faut vraiment le faire, penser à un truc comme ça. Hein. Et je pourrais vous en montrer plein d'autres. Hein. Et vous avez dit tout à l'heure, c'est King Kong. Bah, vous aviez raison. Effectivement, beaucoup de gens dans le cinématographe du départ sont intéressés dans les films fantastiques à ce genre d'œuvre. Et puis, toujours dans l'éclectisme, on peut caser cette nature se dévoilant à la science. Hein. Vous aviez bien saisi qu'il ne s'agissait pas d'une figure divine ou autre, mais d'une allégorie. Hein. Alors, ce n'est pas la vérité qui se dévoile, c'est la nature qui se dévoile à la science. C'est une sculpture qui avait été commandée, je crois, pour orner le hall de l'école polytechnique ou un truc comme ça, je ne sais plus précisément. Mais c'est une sculpture qui est une commande pour un lieu qui est un lieu scientifique. Le réalisme, alors vous aviez parfaitement trouvé la Jeanne d'Arc qui entend ses voix, qui est due à Chapu, hein, un artiste très typique de ce courant réaliste au milieu du 19e siècle, et réaliste aussi, et la fameuse femme au tub, qui est due à un artiste illustrissime qui n'est autre que Degas. Hein. Degas est un peintre, mais c'est aussi un sculpteur. Et ça, on l'ignore trop souvent. Hein. Il y a beaucoup, vous en aviez d'ailleurs pointé plusieurs, hein. Il y a beaucoup de peintres qui ont aussi des sculptures à l'inverse. Voilà le tub de Degas, très belle sculpture de Degas, que vous aviez pu voir. L'ouvrier de tout à l'heure, on l'a également bien vu, ce paysan de Jules Dalou. Dalou, c'est le Courbet de la sculpture, si j'ose dire. Hein. D'ailleurs, au musée de Besançon, il y a un portrait de Courbet par Dalou, hein, qu'on fait par lui. Et là, la misère, vous l'aviez dit tout à l'heure d'ailleurs, la misère, hein, de Desbois, hein, très, très belle sculpture, assez pathétique, de Jules Desbois, qui fait partie de... Mais c'est intéressant parce que cette sculpture qui évoque l'idée de la vieillesse avec un grand V, hein, elle est intéressante parce que quelque part elle est réaliste, hein, c'est une vraie vieille femme, voilà, mais quelque part elle va, elle introduit, si j'ose dire, la thématique suivante, qui est celle du symbolisme. C'est-à-dire que, plus que le portrait d'une vieille femme miséreuse, c'est l'idée de la vieillesse et de la misère, en général, qu'elle évoque. Hein. Et le symbolisme, alors il est évoqué, par exemple, par cette sculpture d'une sculptrice illustrissime, qui n'est autre que... Camille Claudel. On en reparlera demain, d'ailleurs, pour ceux qui viendront à mon cours. Hein. Voilà Camille Claudel. Ça, c'est un... Camille Claudel, elle est célèbre. On ne connaît pas cette œuvre.
Oui, mais pas cette statue.
Et voilà, absolument. On voit toujours la même chose. On rodin autour le penseur. Camille Claudel, on voit toujours la même chose. Décidément, la sculpture française au XIXe siècle n'est pas connue. Je redirai la même chose demain. Et nous sommes là pour essayer de faire que ça évolue. Mayol. Pas un artiste secondaire, ça non plus. Hein. En plus, c'est intéressant parce que vous voyez, une œuvre comme celle-là fait beaucoup penser à l'art nouveau, vous savez. Guimard, etc., les entrées de métro, c'est nous, vous voyez ce que je veux dire, hein. On est là dans une œuvre passionnante de Mayol qui montre bien ces courants-là. Et puis ça, Rodin. Enfin, c'est Rodin. C'est pareil, le Rodin ne montre jamais ces choses-là. En plus, c'est une œuvre de Rodin qui est un hommage à Pierre Puvis de Chavannes. Notre peintre, parce que je vous rappelle que Puvis de Chavannes est originaire d'à côté, hein.
Oui.
Il est originaire de Brest.
Oui.
Hein. Il est né à Lyon, d'accord. Hein. Enfin, il est originaire de Brest. Puvis de Chavannes, je vous l'ai dit. Hein. Et Puvis de Chavannes, c'est le peintre symboliste du 19e. Hein. Et donc ce monument est un projet de monument à Puvis de Chavannes. Hein.
Mais le Claudel de tout à l'heure ressemble un peu au Balzac.
Absolument, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, Claudel, Rodin,
oui,
hein.
Oui.
Il y a des accointances. Mais absolument, il y a vraiment des liens. Hein. Là, vous aviez tout à fait trouvé. C'est la Pénélope de Bourdelle. C'est une des premières qu'on a vues, vous aviez tout trouvé. Hein.
Ah, c'est bien
Pénélope. Voilà, Olivier, bien. Donc bravo, hein, superbe. C'est quand on entre au Théâtre des Champs-Élysées à Paris,
ouais.
Paf, en face, il y a Pénélope de Bourdelle. Hein. Allez au Théâtre des Champs-Élysées, c'est un véritable lieu magnifique. Absolument super. Il y a des frises de Bourdelle, etc. C'est splendide. Hein. Des peintures de Bourdelle aussi, de Maurice Denis aussi, le plafond de Maurice Denis. Ouais. C'est génial, c'est superbe. Allez-y pour la musique, mais aussi pour le décor. Et on termine par le primitivisme. Hein. Et nous voilà notre grenouillard de Cariès. Hein. Cariès est un artiste passionnant. C'est une sculpture en grès, hein, en fait, en grès émaillé. À plusieurs reprises, vous avez parlé, à juste titre, de terre cuite. Ben ça, c'en est une, en fait. Hein. Le grenouillard, vous avez bien vu que ça résonnait avec l'idée du Moyen-Âge, des figures fantastiques, mais vous aviez bien vu aussi que ça résonnait avec l'Orient. Hein. Vous savez, au Japon, notamment, il y a des figures comme ça. Ce n'est pas tant un Bouddha que de ces demi-dieux. Vous savez, au Japon, il y a des mille et un dieux. D'ailleurs, derrière toute chose, il y a des dieux au Japon. Hein. Eh bien, Cariès, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, comme beaucoup de ces artistes, entre guillemets, primitivistes de la fin du siècle, parce que parler de primitivisme au Japon, c'est quand même un peu spécial. C'est une civilisation inouïe, le Japon. Hein. Et on s'intéresse beaucoup à ces ailleurs extrêmes orientaux. Donc vous avez là quelque chose qui résonne avec la statuaire japonaise, plus ou moins populaire, tout comme d'ailleurs dans cette œuvre-là, qui est une œuvre de Gauguin, vous l'aviez trouvé, Oviri. Vous avez évidemment une divinité. Oviri est une divinité de la sauvagerie de la mort. Hein, chez les Tahitiens, vous l'aviez trouvé. Et d'ailleurs, elle a à ses pieds une sorte de loup, de louve. Elle tient un petit loup, visiblement. Bon, du moment, c'est en train de l'étrangler. Vous voyez, c'est vraiment l'idée du sacrifice en l'honneur de l'idole, hein, qui est ici figurée. Hein. Toujours dans les œuvres primitives, cette extraordinaire œuvre de Lacombe, qui représente évidemment un serpent, mais qui, vous voyez, hein, représente évidemment en même temps une sorte de visage. C'est donc une espèce de trouble, mais que l'on trouve dans les arts primitifs, justement, hein, où on a vraiment des choses tout à fait étonnantes. Ben là, Lacombe reprend ça à son compte dans une œuvre telle que celle-ci. Et là, vous aviez trouvé dans l'œuvre suivante ce que c'était, c'est-à-dire Matisse, effectivement. Vous avez une œuvre de Matisse, voilà encore un grand peintre qui est aussi un grand sculpteur. On en a un exemple. Et puis on terminera par notre hippopotame, mais là, vous avez tous trouvé, c'est bien Pompon, notre cher Pompon de Saulieu, n'est-ce pas, très grand sculpteur, hein, qui regarde de près, encore une fois, la statue égyptienne animalière, mais qui, j'allais dire, la pousse plus loin, et l'hippopotame que vous avez là en est un bel exemple. Voilà. Donc voilà, là aujourd'hui, le but de la séance était vraiment de commencer à débroussailler l'affaire. On va évidemment rentrer encore plus dans le dur, dans les séances qui viennent. Hein. Mais je voulais déjà, dans une première séance, commencer à aligner un certain nombre de noms, d'œuvres, pour nous permettre de j'allais dire, de nous habituer à l'œil à cette série. Voilà.
Merci.
Voilà, et ben bonne soirée, peut-être à demain avec Camille Claudel pour ceux ou celles qui pourront venir, et puis de toute façon la semaine prochaine pour la suite des événements. Merci.